Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport jusqu'à midi ce matin avec Marc Madiot, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat et Pierre Rabadan. Voilà des grandes gueules qui viennent de tous les horizons, du rugby, du tennis, du vélo et du football. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver déjà en podcast la première heure des grandes gueules du sport. On est revenu sur Roland Garros. Est-ce que Roland perd de sa valeur sans Alcaraz et Arthur Fils forfait de dernière minute hier? Et puis on a parlé dans le zapping notamment de cyclisme et de Formule 1. Dans un instant, du rugby avec l'Union Bordeaux-Bègles qui conserve sa couronne européenne en Champions Cup en étriant le Leinster 41-19. Est-ce que l'UBB prend une autre dimension? C'est la question que l'on va se poser. On vous attend évidemment pour débattre là-dessus. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Ce week-end, à gagner un séjour dans l'un des 400 campings Homer, des campings 4 et 5 étoiles situés en France ou en Europe. Vous voyagez selon vos envies de deux nuits à une semaine, jusqu'à 6 personnes sur l'année à venir pour remporter votre séjour Homer. C'est très simple, vous appelez le 32-16 touche 4 et envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Ensuite vous choisirez vos GG avec qui jouer. Tiens les amis, une information de dernière minute, on apprend à l'instant que le maire de Lens a annoncé que le 22 mai était désormais férié après le sacre en Coupe de France.
Oh, c'est énorme.
C'est-à-dire que
c'est sympa.
Tous les 22 mai seront fériés. On peut faire ça? Je savais pas, je découvre.
Pas sûr, mais.
Les services municipaux, peut-être.
On en parle. Donc, déjà, il a
réussi son coup. Effectivement. Non, mais attends, t'imagines. Je sais pas. Est-ce qu'en Mayenne. Et les jours fériés après les victoires de Marc Madiot sur Paris-Roubaix?
Non.
Ça devrait se faire, ça, non?
Ça aurait pu, mais non.
Ça aurait pu, mais c'est trop tard. Déjà. Information intéressante, effectivement, sympa. Les célébrations étaient incroyables. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu à 4h du matin à Bollard hier, toute la journée. C'était absolument fou. Mais d'abord, donc, maintenant, désormais sur le ring, J-6 avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Une finale, Paris a déjà vu et vaincu.
RMC, le ring des GG.
On la belle passe de Vitinha pour Doué, le but. Yes! Dembélé, le pied droit par-dessus pour l'écarter avec la frappe arrivée derrière. Le côté. Saint-Germain. Oh, la terre, elle est bien faite de la part de Dembélé. Dembélé, Vitinha peut-être le décalage avec Doué. Doué, faut y aller. Doué. Doué, t'as génie. Le doublé. Ça fait 3-0. Désiré Doué. Allez, Varas Kélia, tout seul. Vas-y, mon garçon. Le ballon piqué. La frappe et le but. La frappe et le but. 4-0. 4-0. C'est une leçon. Barcola avec Mayulu, Mayulu qui crochette, Mayulu, Barcola, Barcola toujours le contrôle pour Mayulu, Mayulu la frappe de l'autre, oh là 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 là, c'est la fête, c'est terminé, c'est fini, Paris sur le toit de l'Europe, le football français remporte une deuxième Ligue des Champions et peut-être ça fait du bien.
Ça lasse pas du commentaire de Jeannot Rességué qu'on embrasse évidemment. La Ligue des Champions arrive. Je suis toujours un peu sidéré en réécoutant le commentaire. 5-0 quand même en finale de la Ligue des Champions. C'est complètement irréel en fait, la victoire du PSG l'année dernière face à l'Inter. Et donc là désormais c'est au tour de PSG Arsenal samedi prochain à 18h. Ce sera à vivre sur RMC avec toute notre équipe sur place autour de Jean-Louis Tour en direct de Budapest. Les Parisiens veulent conserver leur couronne européenne quand les Gunners, récemment sacrés en Première Ligue pour la première fois depuis 22 ans, courent après leur première étoile en Ligue des Champions. C'est la deuxième finale de l'histoire du club dans la compétition après celle perdue contre le Barça en 2006. Les GG, je vous pose cette question ce matin, on a J-6. Les Parisiens ont été finalistes l'an passé. Est-ce que c'est un gros avantage, les mots ont un sens, par rapport aux Gunners? Tiens, rapidement, petit tour de table. Oui ou non, gros avantage, Marc?
Petit avantage, mais avantage.
Donc plutôt non, hein, parce que c'est pas un gros avantage.
Tu veux vraiment, oui, avantage.
Pierre?
Oui aussi.
Pascal?
Gros avantage.
Sarah?
Non, pas gros avantage. Non.
Sur le compte X des grandes gueules du sport, vous avez voté depuis ce matin. Pour l'instant, vous dites oui, gros avantage à seulement 55%. Donc c'est quand même
C'est plus un gros avantage.
Assez partagé, effectivement.
Petite majorité.
Gros avantage, petite majorité.
Pascal, gros avantage?
Gros avantage.
Pourquoi?
Parce que d'une part, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la troisième finale en six ans pour le PSG et Arsenal n'en a disputé qu'une en 2006. Donc il y a la force de l'habitude, ça c'est incontestable. Et surtout, le PSG a brisé le plafond de verre parce que on désespérait de voir le PSG gagner la Ligue des Champions. Or la saison dernière, tu l'as rappelé, 5-0. Allez, on repart pour une seconde. C'est fait. C'est fait. Et depuis septembre, moi je suis très clair, hein, depuis septembre, je dis que le PSG va faire le doublé.
Ah bah tiens, j'ai un message de Charlie Pascal sur WhatsApp qui me dit salut les GG, mes hommages à monsieur Pascal qui avait vu depuis le début de la saison que le PSG irait au bout encore cette année. Quel oracle.
Parce que l'effectif du Paris Saint-Germain, la gestion de cet effectif par leur entraîneur est remarquable, parce que ils ont su juguler les blessures et ils sont revenus comme la saison dernière à partir de janvier avec une équipe performante, conquérante, avec comme point d'orgue le match retour au Bayern. Ouais. Voilà, parce que la finale avant l'heure, c'était contre le Bayern. Il faut tous
Ils sortent le Bayern conscience. Parce qu'ils ont gagné l'année dernière.
Parce qu'ils ont l'expérience.
Voilà. Ils ont l'expérience. Et puis, il y a une dynamique incroyable au Paris Saint-Germain. Et je voudrais simplement dire, pour faire ce parallèle, des courbes et des ascensions, Arsenal, en avril, début avril, avait 7 points d'avance en Première Ligue. Et puis, le 19 avril, en perdant contre City, bien cette avance a fondu. Et ils doivent leur titre de champion, bien sûr, à leur performance, mais aussi parce que Manchester City a fait 2-0. Auquel on ne s'attendait pas. Arsenal aurait pu perdre son titre.
Donc, tu vois le gros avantage aussi de par la forme actuelle d'Arsenal.
Ah oui, ouais. Oui. Et marque moins de buts. Solide Arsenal, mais marque moins de buts. PSG fait feu de tout bois.
Qu'est-ce qu'il y a, Sarah, je trouve que Pascal est dans ton camp, c'est ça?
Non, en fait, c'est l'argument que vient de donner Pascal. Je donne le même, mais pour moi, c'est un petit avantage. Le fait qu'Arsenal ait gagné son championnat et qu'ils aient encore un match à jouer ce soir, qu'ils soient dans l'euphorie. Il faut toujours se méfier d'un adversaire euphorique.
Oui, tu veux dire, malgré tout, ils ont brisé la malédiction.
Exactement, c'est pour ça que moi, je suis sur avantage, mais j'arrive pas à mettre un gros avantage parce qu'en face, on a une équipe qui a brisé son propre plafond de verre, qui est sur une phase ultra positive. Et quand t'es dans un cycle positif, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'irrationnel dans le sport.
Et puis chaque finale est différente.
Et de toute manière, comme le disait un certain Roland Courbis, et qui disait, une finale reste un événement totalement à part. Ouais, c'est totalement à part.
Arsenal est moins souverain depuis quelques mois.
Peut-être je me trompe pas.
Exactement. Mais donc c'est pour ça que je dis avantage, mais j'ai du mal à dire que c'est un gros avantage pour le PSG parce que il joue une équipe qui est en pleine bourre.
La question, c'était vraiment, est-ce que le fait que le PSG ait déjà fait plusieurs finales et qu'il soit champion en titre était pour la préparation de la finale, un gros avantage.
C'est la question.
Spécifiquement, sans même parler de l'adversaire, en fait. Quand t'as l'habitude de jouer des finales, surtout dans la Champions League, tu as un rapport
à l'événement, et
au résultat qui est forcément différent. Quand t'arrives pour la première fois en finale, tu sais que je sais pas si ça se représentera, je sais pas si tu seras capable de gagner le titre une autre fois.
Mais Pierre, t'as joué 5 finales de top 14,
oui,
par exemple.
Et 2 de Coupe d'Europe que j'ai perdu.
On va en parler tout à l'heure, mais faites le parallèle avec l'UBB rugby.
Non, mais bien sûr.
L'UBB a gagné sa deuxième finale consécutive.
Mais toi, tu penses que la première
gagné,
a joué.
Ils ont gagné en mettant 50 points, quasiment, enfin 40.
Non, mais par exemple, toi, quand tu joues ta deuxième finale de top 14, le fait d'avoir déjà joué une finale, ça joue dans l'approche de l'événement, dans quoi?
Ça joue.
T'es moins stressé?
Tu connais le cadre, tu sais comment ça se passe. Bon, là, en plus, tu connais le stade, là, ce sera différent, c'est pas le même, mais voilà, donc t'appréhendes beaucoup mieux l'événement que quand c'est la première fois que t'es dans une finale à ce niveau-là.
C'est quoi, la première fois, t'as pas bien dormi la veille?
La deuxième fois non plus. Tu dormais bien avant, mais après, parce qu'il faut les gagner, les finales, parce que sinon, c'est les pires souvenirs qui te restent, même plus que les victoires.
Tu m'étonnes.
Mais voilà. Donc, moi, je pense que c'est un gros avantage qu'ils soient champions en titre et qu'ils aient déjà appréhendé beaucoup de finales de Champions League, alors que Arsenal, ils sont euphoriques, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas gagner.
Ouais, mais ils n'ont jamais joué de finale de Ligue des Champions. Voilà, enfin, cette équipe-là, en tout cas.
Oui, parce que c'était en 2006.
Oui, il y avait personne actuellement.
Donc je pense. Ils sont fragiles dans les moments clés, Arsenal.
Non, mais Arsenal qui en plus a le poids de l'histoire également. Hein. Ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. C'est-à-dire que il y a l'idée de marquer quelque chose et de ne pas rater l'événement.
Donc c'était le PSG l'année dernière aussi.
Exactement.
Le PSG connaît le chemin. Enrique connaît la route. et il cultive la force de son équipe. Et les petits incidents des derniers matchs contre le Paris FC, par exemple, c'est du pain béni pour Enrique. C'est du pain béni. Il est en train de remonter les pendules, en train de remettre de la concurrence entre ses joueurs.
Pour régler les
derniers détails, et il va se servir du chemin qu'il connaît pour aller chercher la Ligue des Champions. C'est un atout important et déterminant.
Oui, mais alors, je vais vous redonner l'année dernière, le PSG affronte l'Inter, qui avait gagné trois fois.
Oui, bien sûr.
Et le PSG ne l'avait jamais gagné.
Mais c'était loin dans le temps, l'Inter.
Et qui avait été finaliste récemment.
Et qui avait été finaliste. Donc, ce qu'on veut utiliser comme atout cette année n'était pas l'atout du PSG l'année dernière quand même.
Par exemple, Pierre, tu parlais il y a quelques instants de cette expérience en finale de Top 14. Toi, Marc, t'as gagné deux fois Paris-Roubaix. Le fait d'avoir gagné une fois, ça t'a aidé à gagner la deuxième.
J'ai gagné la deuxième fois parce que j'ai gagné la première.
Ah bon? Sûr. Pourquoi?
Pourquoi? Tout simplement parce que en 85, j'étais très fort physiquement. J'ai senti que j'allais basculer et que je pouvais aller chercher la gagne par rapport à mes concurrents. Mais la deuxième fois, je gagne parce que j'ai gagné la première. Je connaissais le chemin et j'ai mis les ingrédients là où il fallait, quand il fallait. Et j'avais une cartouche et j'ai couru au millimètre. Mon chef-d'œuvre de coureur, à titre personnel, dans la gestion d'une course, sur une journée, c'est la deuxième fois que je gagne. Je ne pouvais pas faire plus ni mieux.
Mais pourquoi? Parce que tu te sens... serein,
non,
en fait. T'as été dans le moment chaud, comme tu l'as déjà vécu.
J'étais dans l'exécution de ce que je voulais faire. Et j'ai écarté une à une toutes les anicroches qui pouvaient survenir à tout moment, sur n'importe quel secteur pavé, sur n'importe quel fait de course. Je maîtrisais tout, je voyais tout. Les autres ne me voyaient pas, mais moi, je voyais.
Et même dans les attitudes.
Et quand je revois les images de 91, on ne me voit jamais à l'écran, alors que je suis toujours là. Mais j'étais où il fallait que je sois. J'ai utilisé les derniers millimètres qui pouvaient me permettre de faire la différence. Je gagne pas parce que je suis le plus fort, je gagne parce que j'avais mis bout à bout tous les petits ingrédients qui pouvaient faire la différence in fine pour aller chercher la gagne. Ballerini était plus fort que moi, mais je l'ai tué.
Tu gagnes parce que t'es celui qui maîtrise le mieux.
Voilà.
C'est ça, en fait.
Mais de par l'expérience,
et c'est en cela que le PSG va être très fort.
Sur les finales, Pierre, dans les moments chauds, dans les moments chauds du match, quand t'es un peu accroché, justement, le fait d'avoir déjà connu le chemin, ça joue.
Bien sûr. C'est forcément une t'engranges de l'expérience, mais ça veut pas dire. Attends, on n'est pas en train de dire.
Oui, que c'est gagné. Évidemment.
Mais bien sûr que non.
Mais moi, je reste persuadé que si le PSG entame bien son match et marque les premiers. Ils vont les
écrabouiller. Mais là, t'es dans la tactique, le scénario.
Oui, mais tu veux voir.
Supporter parisien, vous êtes au 32-7 d'heure pour participer. Pascal, toi, t'as fait une finale de Coupe de France avec ETG, par exemple.
J'ai rien gagné, vas-y.
Qu'est-ce que tu veux me dire? Mais non, mais vous étiez dans la découverte, par exemple, en n'étant pas favori face à
l'équipe. Si j'avais effectué une finale de Coupe de France une année ou deux avant, celle-ci, je l'aurais gagnée. Parce qu'en fin de match, contre les Girondins de Bordeaux, avec mon petit club des Viantonon Gaillard, on avait pris l'ascendant, il y avait 2-2.
Ton discours aurait été différent?
J'étais certain qu'on allait gagner. Je voyais les attitudes de mon collègue, Francis Gillot sur le banc de Bordeaux. Il se faisait du souci parce qu'on était meilleur. Et malheureusement, la force de l'habitude, Bordeaux a marqué un but à la dernière minute parce qu'on a fait une connerie. Si on avait été habitué à ce genre de match-là, ce genre d'événement, je suis certain qu'on l'aurait emporté.
Mais est-ce que même toi aussi, Pascal, finalement, comme c'était justement un événement inédit, on sacralise la première finale? C'est-à-dire qu'il y a dans l'approche, peut-être.
Oui, bien sûr, mais bon.
Une satisfaction d'être là.
Non, mais toi, par exemple, Marc, c'est ton premier Paris-Roubaix que tu gagnes. Quand tu arrives dans les derniers kilomètres et que tu te vois en position de gagner, il n'y a pas une petite boule au ventre quand même? Il n'y a pas un truc.
Non, parce que j'avais déjà eu une situation 2 ans auparavant où j'étais avec les mecs qui jouaient la gagne et je jouais la gagne avec eux. Mais j'étais dans l'observation et dans l'admiration. Je regardais Moser, je regardais Duc de la Salle, je voulais surtout pas les faire tomber, je voulais pas les gêner.
Ah mais du coup il y a l'expérience.
T'avais l'impression que t'étais pas à ta place.
C'est pas que j'avais pas l'impression. J'avais l'impression d'être invité à quelque chose. Invité à un truc où si j'y avais pas été, ça aurait été normal. J'étais invité à une table à laquelle j'avais pas de réservation.
Après,
c'est pas mal dit. Ouais, c'est pas mal. Mais quand t'as fait quelque chose, forcément, ça influence ta préparation après, positivement.
Si on veut en revenir au match proprement dit entre Arsenal et le PSG. les attitudes des deux entraîneurs. Luis Enrique, franchement, il transpire à la sérénité, même s'il est d'un enthousiasme. Son body language, il est exceptionnel sur le banc. Et Arteta, il est nerveux. Il est nerveux,
et
il est toujours en train de contester.
Ouais. On sent une pointe d'inquiétude quand on le regarde.
C'est ça, il a un je ne connais pas, je ne vais pas me permettre de juger, mais j'ai l'impression qu'il est un peu la trouille, quoi, tu vois.
Parce qu'il y avait aussi la volonté de ne pas passer complètement à côté de la saison pour Arsenal, avant qu'ils avaient la possibilité d'aller chercher des titres.
Oui, et puis après, si on rentre plus dans les effectifs, oui, les talents individuels, ils sont plus du côté du PSG, le banc est un peu plus fort du côté du PSG. D'ailleurs, dans les stats, quand tu regardes là, les paris ou les stats, le PSG est un petit peu favori. Mais pas un gros favori, mais ils en mettent 60%
après,
de chance.
Après, le PSG et Arsenal se sont affrontés l'année dernière en demi-finale.
Le PSG s'est installé dans une sphère où il n'était pas invité précédemment.
C'est ça.
Il n'était pas
PSG
avec
fait
le
peur
Real,
aujourd'hui.
Il
n'était
pas
sûr.
Avec le Bayern. Aujourd'hui, c'est lui qui montre le chemin au Bayern et au Real. Et là, il y a eu une bascule mentale importante qui s'est produite l'année dernière. Et puis aujourd'hui, quand on a un PSG Real de Madrid, c'est le PSG qu'on cite en premier. Ça n'est plus le Real.
Pierre.
Il y a deux ans ou trois ans passés, c'était l'inverse.
La demi-finale contre le Bayern a complètement conforté ça. C'est-à-dire au-delà du titre. On disait tout ce que c'était la finale avant l'heure, c'était les deux équipes les plus en forme sans doute en Europe, et ils ont maîtrisé le match.
Oui, la sérénité,
c'est la
du
confirmation
côté du,
du leadership en Europe.
Après le piège, ça peut être aussi d'arriver en finale en se sentant trop fort, trop serein, parce que là effectivement, comme tu disais, Pierre, on a l'impression,
Luis Enrique, il a pas l'air d'être comme ça. J'ai l'impression quand même qu'ils ont quand même un coach qui doit bien vite les remettre dans le.
Luis Enrique, il va pas se tromper.
S'ils perdent, ils perdront sur le terrain.
Limite, s'il anticipe pas ou il favorise pas des défaites ou des moindres performances,
c'est ce que je disais tout à l'heure
pour garder le
groupe concentré, remettre de la concurrence et dire au gars, peut-être tu vas pas faire la finale si t'es pas bon.
Tiens, on a Philippe qui nous appelle au 32-7, supporter marseillais, pour parler du PSG.
Dites-nous comment
salut Philippe.
Gagner à l'OM.
Salut l'équipe,
ça va? Est-ce que tu penses que le PSG a un gros avantage en ayant déjà joué une finale par rapport à Arsenal?
Ouais, pour moi ils ont un gros avantage. Ce que vous avez dit, ce que Pascal disait, pour moi le plus gros avantage c'est ça, c'est l'expérience de la victoire de l'année dernière. Contrairement au groupe d'Arsenal qui eux n'ont pas vécu de finale. Finalement, aucun de ces joueurs, ils ont gagné un titre, un one shot en fait. Hein. Et là, ils viennent de gagner un championnat, mais c'est complètement différent, je pense, dans la préparation et d'appréhender cet événement-là.
Ouais, mais après
je pense,
Philippe,
que c'est le plus gros avantage.
Philippe, on est aussi dans une équipe d'Arsenal, parce que là, ne minimisons pas Arsenal aussi. Hein. Arsenal, demi-finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière contre le Paris Saint-Germain. Arsenal, qui déjà l'année dernière était en course pour le titre en Première Ligue, c'est aussi une équipe qui est dans une construction sereine, comme l'a été peut-être le Paris Saint-Germain. C'est peut-être une équipe avec un an de retard sur le PSG, par exemple. Hein. Philippe, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, après, quand je dis ça, je dis pas qu'ils vont se faire rouler dessus, hein, Arsenal, parce que je pense que par contre la finale va être serrée, parce que Arsenal c'est la meilleure défense d'Europe.
6 buts encaissés en Ligue des Champions.
Ils ont pris très peu de buts, donc je pense que ça va pas être la demi du PSG Bayern, ça c'est clair. Et je pense que ils ont toutes leurs chances, hein, mais en amont, je pense que à la fois l'expérience et puis même l'état de forme, je pense que l'état de forme de Paris, on l'a vu là sur les deux demi-finales contre le Bayern, ils sont quand même impressionnants.
Ils volent.
Je suis pas sûr qu'Arsenal qui est buté là contre le titre. Jusqu'à il y a une semaine à peine, soit dans le même état de forme en fait.
Ouais, bah effectivement, on va voir. Donc à 6 jours de cette finale, mais même dans l'approche de la semaine là, ça doit être un peu différent quand même. Quand t'es Gunner ou quand t'es parisien, Pierre.
Il faut quand même retenir ce qu'a dit Sarah tout à l'heure, et je pense que c'est la plus grande méfiance à avoir, c'est quand t'es dans en grande confiance malgré tout, même si ça a été dur le titre, ils sont allés le chercher. Et donc ça peut te mettre dans une espèce
d'euphorie
collective, ouais. Mais collective.
Tu fais de la politique, toi, Pierre?
Pourquoi? Ben non, mais ouais, je suis d'accord.
Non, mais oui, c'est vrai. Sarah l'a dit des belles choses. Merci, Sarah.
Parce que ce qui me reproche de la féliciter. Attention, elle s'en tire à balles réelles, Pierre.
Je le ferai avec toi, Pascal, si tu dis des choses aussi.
Merci, Pierre. Merci. J'en ai besoin.
Voilà, je pense que c'est ça le plus grand danger. C'est vraiment une équipe d'Arsenal qui va jouer au-delà du niveau qu'on voit actuellement, parce qu'elle est dans une période d'euphorie. Elle
vient de gagner. Mais t'as déjà vécu des trucs comme ça?
Ouais,
t'es un peu dans l'euphorie et derrière tu surperformes même peut-être.
J'ai l'impression que rien peut t'arriver.
Et puis tout ce que tu touches, ça se transforme en or, en fait. T'as des fois.
Non, mais franchement,
tu réfléchis plus, tu joues instinctivement.
C'est Paris, ça. Ouais, mais moi je vous pose la question, les amis.
Ouais, mais
je pense
Paris, ça fait 15 jours qu'ils jouent plus.
Ah.
Et le rythme. Non, mais attends, le rythme quand même, il faut réussir à le garder. Et ça, pour moi, c'est une interrogation.
Arsenal, le plus gros poids de la malédiction, c'était la première ligue, hein, de ne pas avoir gagné depuis 22 ans. Oui. Donc là, il y a un espèce de poids quand même.
Ouais, c'est pour ça.
Libération.
Évacué. Ouais. Attention, Marco.
Pour moi, le PSG a refait de la fraîcheur. Ils ont repris de la fraîcheur mentale. Et Enrique a mis tous les ingrédients qu'il fallait. À la limite d'être battu par le PFC, d'avoir mis des remplaçants sur le terrain qui pouvaient dire « Oui, mais moi, je voudrais jouer la finale, mais je joue pas !» Eh ben oui, mais tu joues pas. Mais hey, mec, t'as joué contre le PFC, t'as pas été bon. Donc tu restes au placard. Et voilà, il construit son instrument de bataille. Et Arsenal, pour gagner, a besoin d'être... flamboyants. S'ils ne sont pas flamboyants, ils peuvent pas gagner. Et Paris peut gagner sans être flamboyant, sans être flamboyant.
Je suis d'accord avec toi.
Vainqueur l'an passé, le PSG a-t-il un gros avantage? Résultat des votes pour le ring des grandes gueules du sport sur notre compte X. Vous restez sur le oui à 55%. Ça n'a pas bougé. Donc pour vous, c'est quand même pas un avantage monstrueux.
Actualisé quoi?
Si, j'ai actualisé. Attends,
ça n'a pas bougé.
Non, on a eu des votes quand même assez importants. Mais voilà, on reçoit quand même des messages sur WhatsApp aussi au 0612 424 424, où on parle aussi de l'euphorie d'Arsenal, mais qui peut aussi jouer contre eux, selon certains de nos auditeurs et auditrices. Allez les amis, dans un instant on va parler rugby. La Pierre, attention, Pascal il est très rugby, hein, mais tu peux tirer à balle réelle.
Je sais qu'il est très rugby.
On va voir, parce que l'UBB a gardé sa couronne en Champions Cup en battant le Leinster hier. Est-ce que l'UBB prend une autre dimension? On en parle avec vous au 32-16 sur RMC.
C'est quoi ce cirque?
RMC.
Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va voir ensemble.
Les grandes gueules du sport.
Ce qu'on va voir, c'est des gens qui vous aiment.
9h midi.
On a besoin que de nous pour se maintenir. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles.
Georges Quirino.
Oh, on a des grandes gueules du sport quand même, hein, qui ont envoyé des punchlines toute leur vie. On pourrait en faire une spéciale. On est avec Marc Madiot, Pascal Duprat, Pierre Rabadan, Sarah Pilkowski. Dans un instant, le dossier des GG, tiens, les jeux augmentés, vous savez, les fameux Enhanced Game, où le dopage est autorisé. On en a beaucoup parlé depuis un an. Ça débute aujourd'hui à Las Vegas, ça va durer qu'un jour en fait, hein, alors qu'à la base c'était quatre. Est-ce que c'est un danger pour le sport? Mais d'abord le rugby, avec l'Union Bordeaux-Bègles qui a conservé son titre européen hier en Champions Cup en étriant le Leinster 41-19. Punchline signé Laurent Marty, le président de l'UBB.
RMC, la punchline GG.
Moi, je crois qu'il faut qu'on garde beaucoup d'humilité parce que on est un jeune club. Un titre, c'est bien. T'as l'air moins con quand t'as un titre. Deux, tu commences à te dire que bon, ça commence à compter. Mais on est encore tellement vierge de palmarès pour moi que j'espère qu'on va encore gagner beaucoup de titres. Je crois que si on veut inscrire le club dans l'histoire du rugby, faut au moins un Brennus au milieu.
C'est fort de dire ça après un titre européen. On en avait déjà parlé hier sur est-ce que l'UBB est un grand club après les mots de Laurent Marty. Donc ils ont confirmé leur statut en Europe. Les GG, je vous pose la question. Tiens, d'abord, oui ou non. Est-ce que l'UBB prend une autre dimension? Pierre?
Oui.
Marc?
Oui et non.
Pascal?
Oui.
Sarah?
Oui. Oh bah oui.
On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Tiens, je vais accueillir Wilfried Templi, notre voix du rugby sur RMC, qui était à Saint-Mamès hier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Et qui a toujours de la voix.
Salut Wilfried.
À différence de certains envoyés spéciaux d'RMC, je vous le dis. Tiens, Pierre.
Il est endurant.
Ah, Wilfried. Wilfried, il est endurant, hein. Tout en tonicité, on le sait. Est-ce que l'UBB prend une autre dimension? Tu dis oui, Pierre?
Oui. Pour deux raisons. Pour moi, la première, c'est parce qu'ils ont confirmé quand même leur titre de l'année dernière et que c'est jamais simple. Et la deuxième, c'est aussi la qualité des matchs qu'ils ont fournis sur les phases finales sur l'ensemble de la Champions Cup, mais en particulier sur les phases finales. Enfin, ils ont pris les meilleures équipes et ils les ont foudroyées les trois.
La forme, quoi. C'est la forme qui t'a impacté.
Ouais, ils ont vraiment été ultra dominants. Voilà, après, on en parlera après, mais évidemment, nous, Français, on réfléchit tous sur le modèle top 14. Voilà, il faut qu'il gagne.
Le président, il l'a fait direct.
Il l'a fait direct, mais bien sûr, parce qu'il veut les mobiliser, il a raison, etc. Mais oui, ils ont changé de dimension dans leur capacité à maîtriser leur performance et à répéter ce qu'ils ont fait. Et puis, on va pas minimiser, ils ont écrasé le Leinster, qui était une des références, même si c'est vieillissant, ce que tu veux.
Ils ont battu sur le parcours l'équipe A de Toulouse, du Stade Toulousain.
Bien sûr, absolument.
Champion d'Angleterre.
Et Northampton, et voilà. Donc ils ont largement mérité ça. Et oui, le groupe et le projet de Bordeaux est ancré au meilleur niveau. Donc ils ont changé de dimension à l'échelle européenne et donc française.
Tiens, Wilfried, juste sur le contexte de Laurent Marty, de cette déclaration, qu'est-ce qu'on peut dire?
Non, mais il sait très bien que voilà, les initiés, dont Pierre fait partie, savent que gagner une Coupe d'Europe, c'est très dur, surtout en phase finale maintenant. Hein, comme tu l'as dit, Toulouse, Bast, Leinster, c'est un exploit ce qu'a fait l'UBB, garder son titre. Maintenant, pour le grand public, soulever un club qui soulève un bouclier, voilà, ça prend une autre dimension. Ils ont perdu les deux dernières finales de top 14, hein, donc ils attendent ça maintenant avec impatience. Ce sera difficile parce qu'ils sont cinquièmes en championnat, que les matchs vont s'enchaîner dès la semaine prochaine à Toulon, où ils enverront une équipe quand même modifiée. Ils misent sur la victoire, une victoire face à Clermont pour aller en phase finale, mais derrière, il y aura quatre matchs de suite à gagner, quatre matchs de haut niveau, avec le barrage à demi la finale, et on en avait déjà parlé, ça ferait une série de 15 week-ends consécutifs pour l'UBB. Donc voilà, ils savent, je pense les joueurs se disent qu'ils ont réussi leur saison, parce qu'il y a un titre. Voilà, le staff, le président, comme vous l'avez dit, ils essayent de pousser un peu pour les mobiliser, parce qu'il y a quelque chose de grandiose à faire avec un doublé Coupe d'Europe, Brennus à la fin de la saison.
D'ailleurs, Mathieu Jalibert hier sorti de match, donc tu vois, t'as regagné la Coupe d'Europe, t'as fait le doublé. Et dans ses premiers mots, je crois que c'est la deuxième phrase, il dit je peux pas m'empêcher de me projeter sur le top 14, parce que on en parlait tout à l'heure en antenne. Je pense que les deux finales perdues du top 14 sont un trauma toujours pour les joueurs. Alors ça leur a peut-être servi de motivation dans la construction.
C'est-à-dire que peut-être pour eux, dans leur tête, ils auront pris une autre dimension, surtout avec le top 14.
Ouais, je pense que c'est la prochaine étape. Évidemment, il fallait que je confirme, mais c'est sûr.
Le regard des Toulousains vers l'UBB est plus le même. Aujourd'hui, c'est leur concurrent, on va dire, tout désigné. Et je trouve que j'ai l'impression que les joueurs ont encore faim. Et moi, ce qui me subjugue, c'est comment dire, l'attitude de Yannick Bru, qui est un manager hors pair, dont on parle pas assez souvent, qui se met jamais en avant, mais qui a toujours le bon mot, le mot juste, qui a une vraie approche avec ses joueurs. On sent qu'il y a... Moi, j'ai envie de faire un parallèle avec Luis Enrique, l'attitude avec ses joueurs à la fin du match. Alors, bien sûr, ils ont gagné, mais il y a toujours le bon mot, le bon geste, il est tactile, et puis il connaît la musique, quoi. Il s'enflamme pas, et je pense que s'ils arrivent à bien gérer leur effectif, s'ils ont pas trop de blessures, à ce titre-là, j'espère que Vauquier est pas blessé, parce qu'il est sorti touché au genou. Attention à l'UBB, y compris pour le top 14 cette année, attention à ce qu'il ne réalise pas le doublé.
On rappelle, ils sont cinquièmes actuellement. Donc,
ça va être long, quoi. Le problème, c'est où Fred l'a dit, ils ont un parcours compliqué là, jusqu'au barrage.
Là, ils jouent à Toulon, ensuite ils recevront Clermont pour aller espérer accrocher leur place en barrage. Marc, tu disais oui et non. Pourquoi ? Parce que c'est le statut, la dimension.
Le statut, la dimension et le président qui dit on n'est pas encore au niveau de Toulouse.
Mais ça, c'est de la com, tu penses ? Ou c'est de la com ?
Non, c'est de la com et c'est de la réalité.
Ouais, ils le pensent, je pense. Tous autant qu'ils sont.
Et voilà, donc. Il y a ce besoin d'aller chercher le bouclier. Et tant qu'ils ne l'auront pas obtenu, il manquera quelque chose.
Mais tiens, en termes de management, comme le disait Pierre, là, il vient les piquer à l'orgueil juste après la finale. Parlez de ça.
Bah, il vient leur rappeler. Il a raison de le faire. La saison n'est pas. Bah oui, il profite du moment d'euphorie et de victoire pour dire, ah, les gars, attention, on a peut-être possibilité d'aller chercher autre chose et on n'est qu'à mi-chemin en fait quelque part. On n'a pas réalisé l'essentiel et le plus important.
Mmh. On rappelle le.
Yannick Bouy a dit, j'en appelle à la responsabilité des joueurs.
Ah oui, carrément.
Sur le top 14.
On a l'impression qu'il y a un vrai alignement.
Il dit qu'on montre
un vrai
visage en top 14. Ouais,
le président et le manager, ils sont vraiment alignés.
Non, mais les joueurs aussi, comme le disait Pierre, parce que Mathieu Jalibert dit ça à la sortie du terrain.
Oui, mais hier soir, Georges, quand même, hier soir, il pensait pas au top 14 des joueurs après le match. C'est normal. C'est très dur donc, toute l'année.
Soirée, par là,
Non. Ah bon. Je dis Charvet, je pense, oui. Moi,
les deux compères.
Denis Charvet et Christophe Cessus,
oui,
encore
Christophe, tu les as perdus?
Bah disons que nous on travaille après le match. Ils flânent quoi.
Sarah, hier on se demandait si l'UBB était déjà un grand club. Laurent,
oui, je vous ai écouté.
Disait non. Ouais.
Bah oui, c'est à partir du moment où tu as un titre européen, je vois pas comment tu peux dire que tu es pas un grand club.
Ah, tu penses que là en confirmant ils sont devenus un grand club.
Ils le sont devenus. Après, ce que j'entendais hier et ce que je comprends aussi, c'est que nous, c'est particulier en France, puisqu'on a le meilleur championnat du monde. Donc, en fait, ce bouclier de Brennus reste quand même quelque chose, la consécration ultime. Et que j'ai l'impression que d'avoir un bouclier de Brennus dans ta vitrine de ton club, c'est en fait, t'as tamponné. C'est bon. Je veux dire, il y a plus débat. Alors que là, quand tu gagnes deux fois la Coupe d'Europe ou tu gagnes la Coupe d'Europe, ok, t'es un grand. Mais on peut encore baisser la tête. Il manque quelque chose. On incline encore la tête en disant.
C'est une culture un peu historique de ce sport.
Mais la culture historique, je pense qu'elle l'est encore plus en France.
Et
ma question, c'est que hier, on entendait faire le back-to-back, c'est énorme. Non, il y a quand même un certain nombre de clubs qui l'ont fait le back-to-back. Mmh. Les Français, La Rochelle
l'a fait récemment. Il a fait
récemment. Il a fait récemment.
Oui, mais. Est-ce que c'est pas plus difficile la même année de faire Champions Cup et le bouclier de Brennus? J'ai l'impression que ça, en termes d'investissement pour un club, c'est une gestion qui est quand même très particulière, quoi. Donc, ok, il leur manque le bouclier de Brennus, mais s'ils sont capables de le faire là. En plus, en jouant le match de barrage, là, je pense qu'il y aurait même plus contestation. Bah,
Pierre, t'en as joué des saisons où tu vas loin en Champions Cup, enfin en H-Cup à l'époque et en championnat. Non, mais c'est difficile, même au-delà de physiquement, même mentalement.
Bien sûr, c'est difficile de jouer sur les deux tableaux. Il y a des petites différences quand même. Alors pour les spécialistes, mais l'arbitrage n'est pas exactement le même en top 14 au championnat. C'est pour ça que Bordeaux est plus à l'aise en Coupe d'Europe que en top 14.
Ah oui, c'est un terrain d'expression plus adapté.
Ouais, parce que ils ont besoin de mettre de la vitesse, ils ont besoin que le ballon il joue beaucoup, etc. Et les Rucks sont moins disputés en Coupe d'Europe que dans le championnat français, donc ça favorise leur jeu. Mais oui, c'est évidemment très dur de mener les deux en parallèle, mais le discours de Laurent Marty, de Yannick Bru et même de Mathieu Jalibert a été celui-là. Il y a eu assez peu d'euphorie dans le back-to-back et dans le fait de gagner une deuxième fois en se remettant 40 points au Leinster. Ils sont déjà projetés sur après, même s'ils ont dû profiter cette nuit, évidemment.
Ils peuvent vraiment renverser Toulouse, tu penses, cette année en top 14?
Je pense que, moi, j'ai peur que physiquement ce soit dur. Parce qu'ils passent par un championnat où ça a été compliqué et qu'il leur reste deux gros morceaux qui ont donc Toulon, qui est quand même pas bien, qui doit gagner. Pour essayer d'accrocher la Champions Cup, Clermont qui va jouer la qualif et après un barrage, donc tu vois ça en fait des matchs.
Oui, il y a un enchaînement et on le disait, Cameron Woki en plus s'est blessé. Wilfried, on a les infos sur Cameron Woki d'ailleurs, sorti blessé.
Pas encore, il doit passer les examens. Écoutez, il était il savait pas trop. Hein. Vous savez très bien que bon, même si c'est un latéral, un ligament latéral ne touchait pas les croisés, ça prend 6 semaines, donc ce serait quand même fin de saison. Il boitait, il sentait pas très bien hier soir. Bon, il doit passer les examens. Mais voilà, chaque gros match, c'est pire aussi. Ils perdront des joueurs, c'est comme ça, de très haut niveau. Donc le bout de la saison fin juin, il paraît loin quand même pour l'UBB. Ouais. Mais s'ils font ça, c'est monstrueux quand même.
Prochain match dimanche prochain, donc face à Toulon, à 16h30 pour l'UBB avant un dernier match. Ce sera face à Clermont pour aller accrocher une place dans les playoffs pour la phase finale.
Faut se qualifier, Georges.
Ils sont cinquièmes actuellement.
Déjà. Non, mais ils peuvent pas lâcher de match, tu vois.
Ils peuvent pas lâcher de match, c'est ça. Donc ils sont obligés d'être à fond tout le temps là.
Merci Wilfried Templier, à fond tout le temps, lui aussi. À retrouver aussi évidemment dans Entre les poteaux, le podcast rugby tous les lundis. On va revenir sur cette finale de la Champions Cup à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Dans un instant, les amis, je vous préviens, on va faire un petit contrôle antidopage à la sortie. Hein. Parce qu'ici, on a le droit de rien utiliser. En revanche, à Las Vegas, aujourd'hui, on peut tout utiliser pour faire les jeux augmentés. On a beaucoup parlé ici depuis un an, ça nous a beaucoup scandalisé. Ben voilà, ça y est, on y est. Est-ce que les jeux augmentés sont un danger pour le sport? On va vous expliquer comment ça va se passer. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Pierre Rabadan, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Marc Madiot ce matin, dans un instant, le vestiaire des GG. Vous allez nous parler de ces moments où le sportif porte des revendications, comme le font les stars du tennis actuellement, pour protester contre la répartition des revenus sur les grands chelems. On va voir qu'on a eu des vrais manifestants autour de la table, voire des leaders de grève. C'est le moment de vous inscrire à notre jeu pour tenter de remporter 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde, vidéoprojecteur plus maillot des Bleus, ballon officiel, boîte Lego du trophée. Venez sélectionner un joueur dans la liste des 26 de l'équipe de France. Hein, la liste est derrière moi. On a un grand tableau là avec tous les joueurs et on verra ce qu'il y a à l'intérieur du joueur que vous choisissez. Et vous repartirez forcément avec un super cadeau. Envoyez dès maintenant liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Tout de suite, le dossier des GG.
RMC, le dossier des GG.
C'est aujourd'hui la première édition des Enhanced Games, les jeux améliorés. Ouais, on le bosse depuis un an, la prononciation, mais ça marche pas toujours. Pas simple à dire, hein, quand t'as un H au milieu, là. On en a beaucoup parlé ici. C'est vrai que c'est cette compétition où le dopage est autorisé et encadré. Souvenez-vous, ça nous a beaucoup scandalisé, et vous aussi. Ça va commencer aujourd'hui à Las Vegas, avec des nageurs, des sprinteurs et des haltérophiles. On va vous expliquer tout ça en détail dans un instant. Tiens, d'abord, les GG, je vous pose la question. Est-ce que les Enhanced Games, les jeux augmentés, on va le dire comme ça, on va se mettre d'accord, sont un danger pour le sport? Tiens, juste oui ou non, Pierre?
Oui.
Sarah?
Non, pas du tout.
Ah bon?
Même si c'est pas du sport.
Pascal?
Oui.
Pierre? Marc?
Encore oui.
Non.
Participez au débat au 32-16 et sur WhatsApp. Diane Carlotti a travaillé sur le sujet pour RMC. Salut Diane. Diane qui est avec nous. Diane qui est judoka en plus, hein, toujours clean, hein, sur le tatami, on est d'accord. Ce qu'on a beaucoup appelé les jeux des dopés, donc commence aujourd'hui. Est-ce qu'on sait enfin à quoi ça va vraiment ressembler, en fait? Parce qu'on en parle beaucoup, mais ça va ressembler à quoi?
Et oui, Georges, comme un symbole, les jeux des dopés dans la cité mondiale du vice, Las Vegas, à deux pas des grands casinos. Le complexe temporaire regroupe un bassin de natation, une piste d'athlétisme et un plateau d'haltérophilie, les trois sports vedettes de l'événement. Et il peut accueillir jusqu'à 2500 personnes. Mais on est loin du fast annoncé par les organisateurs, avec plus d'une centaine de participants et 4 jours de compétition. Ils ne sont finalement que 42 athlètes à concourir le temps d'une seule soirée. Et parmi eux, il y a quelques grands noms du sport mondial, comme le nageur Magnusson ou le sprinteur Fred Kerley. Mais la plupart des participants n'ont pas réussi à briller au plus haut niveau dans les compétitions officielles.
Voilà, ça n'a finalement pas tellement attiré. Alors redis-nous en quoi ça consiste exactement.
Eh bien, pour la première fois, Georges, on va voir des athlètes ouvertement chargés concourir. Depuis plusieurs semaines, ils suivent un protocole de dopage encadré par un staff médical dédié. Et ils ont le choix donc entre 37 produits illicites, dont la testostérone, les hormones de croissance, le PO, les stéroïdes anabolisants, etc., etc. Des substances interdites par l'agence mondiale antidopage. Et il y a un Français qui s'est laissé tenter, c'est le sprinteur Mohamed Oufa, le multi-champion national sur 100 et 200 mètres.
Je suis ouvert car je pense qu'il n'y a rien à cacher. J'ai été convaincu par trois raisons. La science, la seconde was the money, and the third point was I wasn't able to run at this moment because I was suspended, and then we're taking you out of jail and then do what you have to do.
Alors l'un des principaux arguments des Enhanced Games, c'est l'aspect financier. Les vainqueurs recevront 250 000 dollars avec des primes allant jusqu'à 1 million de dollars pour ceux qui battraient le record du 50 mètres nage libre ou du 100 mètres. Cette compétition est quasi unanimement critiquée par les instances médicales et sportives, à commencer par Amélie Oudéa Castéra, la présidente du CNOSF.
Moi, j'appelle pas ça du tout du sport. J'appelle ça un business de la triche, qui n'a d'ailleurs aucun intérêt sportif. Je trouve que c'est dégradant pour les athlètes. C'est quand même une vraie négation des valeurs du sport.
Une négation des valeurs du sport. Merci Diane Carlotti de nous avoir rappelé ce que sont ces jeux des dopés. Impressionnant quand même, hein, ce que tu nous as dit. Hein. Ils ont le choix entre 37 produits illicites. C'est en gros, bah, ils rentrent dans la pharmacie. Tiens, je vais prendre ça plutôt. Ah, bah, je vais plutôt prendre la testostérone.
Il y a au moins un truc qui n'a pas
tromperie. Oui, ça a le mérite d'être transparent, entre guillemets. Est-ce que les jeux des dopés sont un danger pour le sport? Tiens, Pascal.
Je pense que oui, parce que la finalité de ces jeux augmentés, c'est le futur du sport avec les produits dopants. En fait, j'ai lu depuis hier, j'essaye de comprendre déjà comment on peut autoriser de telles épreuves. Et en fait, la volonté des organisateurs, c'est de considérer que le sport du futur, c'est du sport de dopé. Donc en cela, c'est extrêmement risqué. Extrêmement risqué, parce qu'en plus, il y a du pognon. Donc tu te dopes et tu gagnes beaucoup d'argent. Et comment tu l'arrêtes, le truc, au bout d'un moment? Est-ce qu'ils feront machine arrière un jour?
Bon, après, le truc, c'est que le financement de tout ça, en fait, c'est un truc qui peut pas durer toute l'année. Hein. Ça tient sur des mécènes qui mettent de l'argent pour faire des jeux durcis, du cirque. Une fois, Sarah, toi, tu dis non, c'est pas un danger. Pourquoi?
Non, c'est pas un danger parce que c'est tellement... Je cherche un adjectif, mais le mot ridicule n'est pas assez. Mais c'est tellement gros que pour moi, au contraire, que ce soit ouvertement dit, ouvertement libéré avec des partenaires uniquement privés, je vois pas comment ça peut durer sur la longueur. En fait, ça va être des one shots. C'est les jeux du cirque de l'ère moderne. Et j'ai envie de dire, celui qui se fera prendre la prochaine fois dans une compétition totalement officielle, on lui dira bah
tu vas aller là-bas. Quoi.
Maintenant, tu vas aller là-bas. Tu sais où tu feras ta carrière. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le fossé est tellement grand. Parce que ça a été annoncé comme tel, c'est-à-dire que là le bar à produits dopants, c'est fantastique.
Non, chercher les images, hein, il y a un nageur qui s'est fait, on va dire,
session
sous stéroïdes depuis des mois,
il est devenu le bonhomme Michelin. Il va décéder 2 ans après avoir participé à ça, ça va refroidir tout le monde. Ce que je veux dire, c'est le fossé est tellement grand que pour moi, ça n'a pas de danger plus que ça. Parce que ça restera éloigné, en fait. Mmh. Ça n'empêchera pas qu'il y aura encore des cas de dopage dans le sport traditionnel, dans la recherche de performance. Mais je ne vois pas comment ça peut faire de l'ombre. Je vois pas comment Coca-Cola, demain, va se dire... Alors moi, je deviens...
Faut que je dise Pepsi et Brescola, du coup, voilà. Pour donner 3 minutes.
Je vois pas comment une firme américaine comme ça va se dire... alors moi, j'enlève mes billes des Jeux Olympiques.
Pour aller sur les Jeux dopés, oui.
Pour aller là-dedans.
C'est-à-dire qu'en fait, tu penses que ça va avoir une influence minime,
Je pense que les valeurs, elles sont... Enfin, c'est...
Bah, les valeurs, elles n'existent pas.
Il n'y en a pas.
En fait.
Moi, je pense que, voilà, donc c'est pour ça que ça m'inquiète pas plus que ça.
Il n'y a rien de fantastique dans tout ça. C'est vraiment catastrophique. Alors d'abord, et moi, c'est quand même le truc qui me préoccupe le plus, et tu l'as un peu dit, parce que c'est dangereux. C'est-à-dire que les mecs qui font ça, ils vont, je sais pas quelle performance ils vont faire, devant 2000 personnes, comme vous nous l'avez rappelé. Donc il va y avoir évidemment une audience, parce que c'est un spectacle, donc on va regarder un peu ce que
ils ont pas trouvé un diffuseur, hein, ce sera sur YouTube.
Pas diffuseur, c'est quand même déjà un flop un peu sur le papier.
Linéaire.
Parce qu'on nous avait vendu un truc.
Ça devait être sur 4 jours, c'est sur 1 jour.
Et quand même, on fait du sport à la base, pour être en meilleure santé, pour, alors évidemment, il y a le côté compétition de ça, mais là, les mecs, ils s'y chargent. Donc, comme disait, Sarah, quand il y en a un qui va claquer parce qu'il se sera trop chargé et qu'il aura pris le mauvais combo dans le frigidaire à dopage, ce ne sera pas la même chose.
Mmh. Alors, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Aujourd'hui, le record du 100 mètres d'Usain Bolt est battu et est à 9,40, que l'impact est mondial.
Mec qui meurt un an et demi après, on va dire oh, super, quel sportif incroyable. Le mec s'est chargé comme un âne, il a couru en 9,40
mais il a pris $1 million et ça peut peut-être se donner envie à des sportifs un peu naïfs.
Est-ce que ça peut pas être ridicule. Un champ d'expérimentation? C'est là où c'est dangereux.
On sait que le mec qui met l'argent est un transhumaniste.
C'est un champ d'expérimentation.
Non, mais j'ai l'impression que le dopage, ça n'existe pas dans le sport. T'écouter, Sarah.
Mais si, ça existe quand même. Mais bien sûr, mais le champ d'expérimentation.
J'ai l'impression que la frontière, elle n'existe plus. Tiens, c'est pour ça en cela c'est dangereux.
J'ai quelques messages un peu provoques sur WhatsApp. M qui me dit ce qui est bien, c'est que quand des sportifs clean feront des perfs approchant celles des dopés, on sera vigilant. Ben non, pas forcément. Parce qu'en fait, c'est pas forcément les meilleurs mondiaux qui sont là et qui vont aller taper des records. Jean-Michel qui me dit aussi. Que se passe-t-il si les perfs sont identiques au sport propre? Ben écoutez, qu'est-ce qu'on dira? C'est juste un mec qui était moins bon habituellement. En se chargeant, il a peut-être réussi à faire quelque chose d'un peu mieux. En fait, ce sera juste logique, j'ai envie de dire. Marc, c'est un danger ou pas?
pour le moment, je pense que ça n'est pas un danger parce que le monde du sport dans sa globalité est tourné vers une forme d'intégrité et de respect des règles. Alors, il y a forcément toujours des gens qui essaient de contourner les règles, mais...
Mais regarde les sportifs qui disent on n'est pas assez payé dans notre sport, oui, on va chercher de l'argent.
Après, ça va être intéressant de suivre quand même ce qui va se passer derrière. Est-ce qu'il va y avoir une reprise médiatique? Est-ce qu'il va y avoir un intérêt qui va voir le jour? Moi, j'ai envie de me projeter dans... On sera plus là pour en parler, mais j'ai envie de me projeter dans un siècle ou deux. Peut-être que dans un siècle ou deux, ce qui est en train de se mettre en place ici nous paraît... Aujourd'hui, loufoque,
c'est terrible,
pas la règle de demain.
Il y a toujours un intérêt pour le morbide hein, aussi.
Oui, mais
désolé, l'être humain est passionné des faits divers.
Tu le mets sur l'ordre financier.
Peut-être que ça va provoquer quelque chose et que dans deux siècles, on ressortira les enregistrements des GG où on disait c'est loufoque, ça n'a rien. Et puis dans deux siècles, ce sera peut-être la norme.
Donc ça préoccupe un peu quand même, ce genre de choses.
À la norme, que des gens se cherchent
du sport. Non, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Mais peut-être que demain, on sera dans autre chose.
Oui, tu veux dire quoi? Dans la société du sport-spectacle, faut faire attention. Il faut qu'il y ait des garde-fous, en fait.
Ben voilà.
Il faut être vigilant, en fait.
En fait, il faut comprendre les raisons pour lesquelles ça a été fait. Est-ce qu'on fait ça pour aller voir des records ou pour gagner plus d'argent?
Regarde le business,
je vais vous donner un exemple. Le Live Golf, ils ont voulu faire un circuit où tu gagnais trois fois plus. Il y a des joueurs qui sont partis...
Mais ça vous dit qu'on a beaucoup d'argent.
Ils sont partis jouer là-bas, donc ils n'ont plus joué sur le PGA, donc le circuit officiel mondial américain, et ben en fait les joueurs ils ont perdu en crédibilité et comme par hasard ils sont en train de refusionner. Donc pour moi ça a qu'un temps. Si la motivation est l'argent, je pense que ça durera moins longtemps que si la motivation c'est de voir effectivement jusqu'où les produits dopants peuvent amener.
Effectivement. Voilà les Enhanced Games donc à suivre aujourd'hui.
On va pas le suivre.
Mais bon, voilà, c'était important d'en parler. Je remercie Diane Carlotti qui nous a présenté ces jeux des dopés dans un instant dans le vestiaire. On va parler de toute autre chose, des sportifs avec leurs revendications, et puis on va reparler de Roland Garros évidemment avec Yannick Sinner. Est-ce qu'il est sous pression? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.